franceinter.fr. La une du climat. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Alors avant de filer en Antarctique pour la une, nous accueillons comme tous les lundis Hervé Kempf, journaliste chez reporter.net, pour un petit tour de l'actualité climatique. Bonjour Hervé.
Bonjour Daniel.
Alors que faut-il retenir de l'actualité climatique cette semaine ?
Eh bien que se déroule non pas en Nouvelle-Zélande, ni en Antarctique, mais à Bonn, près de chez nous, en Allemagne, une dernière session de négociation avant la COP21. En gros, c'est dans le cadre de la Convention sur le changement climatique. Il y a plusieurs rounds de négociation pour préparer la COP21 qui aura lieu à Paris à la fin novembre. Et là, pendant 5 jours, les négociateurs de 195 pays vont discuter, essayer de peaufiner un texte qui est plus ramassé, qui est plus dense, mais dont un certain nombre d'observateurs disent qu'il est un petit peu vide. On va voir si les négociateurs vont remplir ce texte.
Ces négociations se font à huis clos ? Est-ce qu'on y a accès ? Est-ce qu'on sait un peu ce qui se dit ?
Les plénières sont ouvertes aux observateurs et à la presse. Un certain nombre de réunions plus privées, enfin c'est pas qu'elles sont privées, c'est qu'elles sont plus confidentielles, non, ne sont pas ouvertes à la presse ni aux observateurs.
Vous restez avec nous, Hervé Kempf. Nous allons maintenant rentrer dans le sujet de cette une de la science aujourd'hui. À quel point les glaces de l'Antarctique vont-elles fondre dans le futur ?
Longuement mûri dans le cœur glacé de l'Antarctique, ce colosse s'est détaché du continent. Un autre géant lui tient compagnie un peu plus loin. Ces deux icebergs, vestiges d'une énorme montagne de glace, ont commencé leur lente dérive vers la Nouvelle-Zélande il y a 6 ans, probablement sous l'effet du réchauffement climatique. Les vents, les courants les ont entraînés dans une descente de 13 500 km jusqu'aux côtes néo-zélandaises.
Et pour cette une de la science, Hervé Le Treut vient tout juste de nous rejoindre par téléphone. Bonjour Hervé Le Treut.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur du laboratoire de météorologie dynamique de Jussieu et membre de l'Académie des sciences. Et vous êtes avec nous en direct depuis la Corée du Sud pour réagir à la publication de ce papier dans le journal Nature qui s'intéresse aux différents scénarios de fonte des glaces de l'Antarctique et qui est assez alarmant. Alors avant d'avoir votre réaction, peut-être Hervé Kempf, parlez-nous un peu de ces résultats. L'Antarctique serait une véritable bombe à retardement pour la montée des eaux.
Tout à fait. Et c'est un article qui est fait par des chercheurs de Nouvelle-Zélande qui non seulement sait jouer au rugby mais sait faire de la bonne science, on l'a vu. Et donc le chercheur Goledge et son équipe ont travaillé sur une simulation de l'Antarctique par ordinateur. Grosso modo, on étudie beaucoup l'Antarctique mais c'est surtout des observations pour savoir ce qui se passe. Est-ce que ça fond ou est-ce que ça ne fond pas ? Ce qu'ont fait Goledge et son équipe, c'est appliquer un modèle informatique en utilisant les différents scénarios du GIEC, le groupe intergouvernemental d'évolution sur le climat, et en voyant selon l'évolution des précipitations, selon l'évolution de la température de l'eau, selon l'évolution de la température de l'atmosphère, comment va évoluer la glace de l'Antarctique avec... En un mot, il y a deux grands blocs de glace en Antarctique, si on peut dire. Il y a la calotte glaciaire elle-même, et puis il y a ce qu'on appelle des barrières de glace, qui sont des glaces semi-flottantes attachées à cette calotte glaciaire. Et c'est sur ces barrières de glace que la température, l'élévation de la température pourrait le plus jouer. Alors en un mot, à que conclut-il ? Eh bien que si l'on dépasse un réchauffement de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, l'Antarctique enclenchera un processus de fonte, notamment par ses barrières de glace, qui entraînera une élévation plus importante qu'on ne le pensait du niveau de la mer, et un processus qui, même si on arrêtait, mettons, dans 100 ans, les émissions de gaz à effet de serre, pourrait continuer à faire élever le niveau de la mer jusqu'à 2300.
C'est qu'en plus, il y a une inertie. Là, on enclenche un cycle pour plusieurs centaines d'années qui sera irréversible si on dépasse les 2 degrés. Alors, on a un petit problème de liaison avec Hervé Le Treut qu'on voulait faire réagir à cette information. On va le rappeler tout de suite, mais en attendant, Hervé Kempf, est-ce que le fait de faire cette découverte est vraiment une nouveauté ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on sait depuis longtemps, cette idée que finalement, oui, quand les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique fondront, le niveau de la mer s'élèvera ?
Alors là, si, on le sait, mais là d'abord c'est seulement l'Antarctique. Et ce qu'on ne savait pas, c'est mesurer précisément l'évolution dans le temps. On a beaucoup d'analyses. Est-ce que l'ouest antarctique fond davantage ? Est-ce que la partie est du continent antarctique, qui je vous le rappelle est immense, fond, voire augmente ? Ça, il y a beaucoup de travail pour analyser ce qui se passe. Ce qu'on appréhendait mal jusqu'à ce papier qui est nouveau de ce point de vue-là, c'est comment cela pourrait évoluer. Et en gros, évidemment, il y avait des études sur ce qui pourrait se passer. Là, les chercheurs deviennent beaucoup plus précis.
Alors, Hervé Le Treut, que l'on a retrouvé, notre spécialiste du climat. Vous avez pris connaissance de cette étude, de cet article. Est-ce qu'il vous semble réaliste, crédible? Est-ce qu'il vous semble particulièrement alarmiste?
Ben, je pense qu'on sait qu'on a dans le système climatique des points de basculement, si vous voulez. On a simplement un petit peu de mal à les situer. On sait que parmi les glaciers, que ce soit celui du Groenland, celui de l'Antarctique, peuvent avoir des évolutions plus rapides à partir d'un certain point. Et on sait aussi que si on se stabilise à un climat plus chaud qu'aujourd'hui, on peut avoir des effets qui seront pérennes sur la glace. Donc ce qui est nouveau, c'est peut-être effectivement de le situer si proche des niveaux de réchauffement qui seront les nôtres si on arrive à maintenir le climat en dessous de ces 2 degrés de réchauffement. Mais bon, bien sûr, c'est une alerte supplémentaire qui nous insiste à être prudents parce qu'on est face à un système qu'on maîtrise pas complètement. C'est vrai que la modélisation, c'est une modélisation. C'est pas une représentation de la réalité qui est tout à fait exacte, mais elle pointe à des vulnérabilités, à des sensibilités de l'Antarctique. Il faudra voir si d'autres papiers la confirment. Ouais. Mais c'est effectivement toujours un signal d'alerte supplémentaire.
C'est vraiment un signal d'alerte supplémentaire. C'est-à-dire que ces simulations nouvelles sont encore plus pessimistes concernant la montée des eaux du globe que ce que prévoyait le dernier rapport du GIEC. C'est un petit peu inquiétant, voire désespérant, alors qu'on a déjà du mal à réagir au premier scénario que l'on nous avait un peu prédit. On se rend compte que ça pourrait être pire que prévu.
Alors, ce qu'on appelle les scénarios du GIEC et le dernier rapport du GIEC mentionne la possibilité de phénomènes d'accélération qui peuvent être aussi dus à la mortalité de certaines forêts. Enfin, tous ces points appelle en anglais les tipping points, le moment où le système s'accélère. On sait que ça existe dans le système climatique, on ne sait pas très bien à quel niveau. Et donc, si ça se situe à un niveau bas, c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement complètement protégé par un réchauffement qui serait, entre guillemets, seulement de 2 degrés.
Axel Villard.
Oui, Hervé Kemps, ces résultats confirment quand même la cible principale des négociations à venir, c'est ce point de bascule des 2 degrés. Si on les passe, on va dans un scénario qui, selon les simulations, est catastrophique. Sinon, on peut s'en sortir.
Tout à fait. Et 2 degrés, c'est devenu un objectif politique. Donc, depuis Copenhague en 2009, l'objectif a accepté par la communauté internationale. Et rappelons ce que ça signifie, ce que rappellent d'ailleurs les chercheurs, Goledge et son équipe. Moins de 2 degrés, ça signifie qu'on réduit, on divise les émissions de gaz à effet de serre de toute la planète, on les divise par 2 d'ici 2050. Donc c'est maintenant.
Ouais. Mais Hervé Le Treut, moi j'avais cru comprendre que les 2 degrés, c'était plutôt le scénario optimiste. C'est-à-dire déjà, si on arrivait à cantonner le réchauffement climatique à 2 degrés, c'était déjà une bonne chose. Et là, on se rend compte que même 2 degrés, ce serait déjà trop.
Ben, 2 degrés, on sait que ce sera difficile. Et on sait que ça ne nous protège pas non plus complètement. En même temps, je pense que ce qui est important dans ces 2 degrés, c'est que c'est une ligne d'horizon. Ces 2 degrés, c'est quelque chose qui nous, qui est une marque pour le milieu et la fin du siècle. La négociation de Paris, par exemple, va considérer des promesses sur la période 2020-2030. Donc ce qui est important, c'est de bien démarrer avec une ligne d'horizon, un peu comme un voilier qui se donne un cap, qui soit à peu près le bon. Donc 2 degrés, je pense que c'est un cap raisonnable pour essayer d'avoir des accords qui soient suffisamment ambitieux. Et ce qui est certain, c'est qu'il faudra réviser constamment au fur et à mesure des avancées de la science. On en saura beaucoup plus sur ces points de retournement, ces points d'emballement du système d'ici quelques décennies, on peut l'espérer. Donc il faut bien démarrer et puis ensuite essayer d'avoir peut-être un peu de chance et surtout d'avoir une capacité à réorienter les choses si la science nous montre que c'est nécessaire.
Merci Hervé Le Treut d'avoir été avec nous depuis la Corée du Sud. Merci aussi Hervé Kempf et puis à la semaine prochaine dans La Tête au Carré. On rappelle que pour suivre l'actualité climatique quotidiennement, il y a votre site reporter.net. Merci Axel, à demain.
À demain Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un pas de plus vers des écrans pliables. Une équipe de chercheurs français du CNRS et du CEA vient de mettre au point un procédé unique pour obtenir des diodes électroluminescentes flexibles. La maîtrise de ce nouveau type de LED est une étape obligatoire pour mettre au point des écrans souples. Grâce à l'alliage de nanofils de nitrure et d'une enveloppe polymère, les chercheurs ont obtenu une membrane souple, plus résistante et plus brillante que les précédents essais. Une avancée de taille dans cette nouvelle course technologique à l'éclairage déformable. Faut-il tuer tous les bouquetins du massif du Barguil en Haute-Savoie? Les animaux sont suspectés de mettre en danger les élevages bovins de la vallée à cause d'une épidémie de brucellose faisant peser un risque sur la production de lait. L'exécution des bouquetins a été commandée par le préfet de Savoie début octobre. Cette exécution fait de plus en plus débat. 70 bêtes ont été tuées sur 300, mais les associations écologistes estiment que la solution est inefficace et disproportionnée. Selon Eric Ferraille de l'association France Nature et Environnement, tirer dans le tas ne fera que désorganiser les hardes et participera à la dissémination des bouquetins malades dans le massif. La filière du reblochon, elle, s'inquiète pour sa production. Et pour finir, la malheureuse histoire du martin chasseur à moustache. Pour la première fois depuis les années 20, cet oiseau très rare au plumage bleu et orangé a été redécouvert sur les îles Salomon. L'heureux naturaliste américain Chris Filardi, qui a mis la main dessus, s'est empressé de partager une photo de l'animal sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il s'est par contre bien gardé de préciser, c'est qu'il a ensuite tué l'animal pour l'étudier au Muséum d'Histoire Naturelle américain. Un geste révélé par le journal The Independent et jugé incompréhensible pour nombre de ses confrères. Depuis, le débat fait rage sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez voir une photo de ce très bel oiseau ou réagir, rendez-vous sur la page Facebook de La Tête au Carré.